Le journal Josette Sédou.
Bonjour, la cohabitation de deux langues à Bienne, c'est la marque de fabrique locale. Un organe a contribué à son développement, le Forum du bilinguisme fête ses 30 ans. La situation s'améliore, mais on est loin d'un retour à la normale. Ce sont les mots du chef de la division du travail au SECO. 150 000 chômeurs n'ont toujours pas reçu leur indemnité de janvier. On entendra où ça en est exactement. Coup d'envoi des Jeux Olympiques en Italie aujourd'hui. On parlera de la cérémonie et aussi de la santé de la skieuse américaine Lindsey Vonn. Et météo, toujours beaucoup de nuages et des averses possibles aujourd'hui. Cet après-midi, un temps un petit peu plus sec est attendu avec des éclaircies en pleine et des température douce pour la saison. À Bienne, le Forum du bilinguisme fête ses 30 ans. 30 ans d'action pour promouvoir les deux langues et la compréhension entre les communautés linguistiques. Le bilinguisme, c'est un peu cette marque de fabrique biennoise. Mais il y a aussi toute l'histoire derrière. Les grandes réalisations en 30 ans, c'est les suivantes hein, pour le Forum du bilinguisme. Le baromètre du bilinguisme, il y a eu les tandems, le prix du bilinguisme, la maison du bilinguisme, etc. On continuera la liste des étapes atteinte pour le bilinguisme. Aussi, ces défis à venir avec, en direct de notre studio à Bienne, la directrice du Forum du bilinguisme, Virginie Borel. Bonjour.
Bonjour.
Le bilinguisme, il existait déjà avant la création du Forum du bilinguisme, bien sûr. Mais pour un peu se représenter concrètement, on est parti d'où il y a 30 ans ?
1996, en fait, oui, il existait, mais en fait, il n'était pas, il avait aucune forme officielle. Donc, ça veut dire qu'il y avait une communauté francophone, mais qui n'avait que peu de droits. Donc voilà, on est parti avec le fait d'officialiser. C'est là que Bienne est devenue officiellement bilingue. Et dans la foulée, ben, elle a lancé cette fondation. En fait, c'était aussi le résultat du travail d'un étudiant qui avait montré que les francophones se sentaient clairement bien moins traités à Bienne que les germanophones. Donc voilà, lancement de la création et puis après, déroulement de plusieurs activités pour essayer de rapprocher ces deux communautés.
À la base, le Forum du bilinguisme a été lancé par le conseil de ville de Bienne, donc à l'échelle locale, et puis ensuite ça s'est nationalisé. Est-ce que les demandes, les besoins et les défis sont les mêmes à Bienne que dans le reste de la Suisse ?
C'est pas les mêmes, mais en fait, Bienne, c'est vraiment une petite Suisse. Ça veut dire qu'on a deux langues officielles, mais en fait, les dialectes sont permanents chez les germanophones, qui a toutes les langues de la migration. Donc, c'est vraiment la configuration que l'on retrouve à peu près partout dans notre pays. Puis, en fait, comment on arrive à vivre en équilibre avec ça, en respectant nos langues, nos cultures, voilà, c'est un petit peu tout le défi. Donc, ça nous a paru tout à fait logique d'exporter, j'aime bien parler d'exporter nos bonnes pratiques, puis évidemment de les adapter à des cas de figure bien différents, si je pense à d'autres cantons bilingues, où en fait c'est l'allemand qui est minoritaire, c'est clairement pas le cas ni à Bienne, enfin à Bienne on va vers l'équilibre, mais dans le canton de Berne il y a quand même que 10% de francophones.
Mmh. Le Forum du bilinguisme entend promouvoir le français et l'allemand, et du coup à l'échelle locale, vraiment ici à Bienne, est-ce qu'on ferait pas mieux de promouvoir aussi un peu le suisse-allemand pour que les gens puissent vraiment communiquer entre eux dans la langue qui est parlée localement ?
Ben, c'est un point central, en fait. C'est pour ça que les tandems linguistiques, ils n'ont pas de limite. Et puis qu'il y a même des méthodes qui sont promues pour l'apprentissage du suisse-allemand. Parce qu'en fait, c'est certainement une des raisons qui fait qu'on a du mal à se comprendre dans notre pays. C'est qu'en fait, nous, francophones et les italophones, nous apprenons l'allemand. Et finalement, c'est le dialecte qui est utilisé par la population ou les dialectes qui sont utilisés par la population germanophone. Et puis, la population germanophone, elle a du mal à aussi à apprendre l'allemand, qui vient en fait comme une première langue dite étrangère, alors que c'est considéré comme une langue nationale. Donc ça crée des difficultés. Donc oui, on promeut le suisse-allemand, notamment les tandems. C'est extrêmement important que les francophones se disent, ça vaut le coup qu'à l'oral, je me lance vers le suisse-allemand. Ce d'autant plus, ce petit avantage, qu'il n'y a pas vraiment de grammaire. Donc on ne risque pas les erreurs qu'on a tellement peur de faire lorsqu'on parle, par exemple, l'allemand pour nous autres, les francophones.
Vous l'avez dit, il y a les tandems, il y avait les e-tandems aussi qui sont venus en 2017, le prix du bilinguisme, etc. Quels sont les projets futurs ?
Bon, alors pour cette année du 30e, il y a pas mal de projets. Ben, évidemment, on le décline aux trois niveaux qui sont les nôtres. On refait un quatrième baromètre du bilinguisme des biennoises et des biennois, donc des langues, hein, plus que du bilinguisme. Mais en fait, on avait décidé à l'époque de ne pas changer le nom. Et puis, on fait en même temps un baromètre des langues nationales avec 10 cantons suisses. Voilà. Et puis, tout ça sera en fait l'apothéose, si on peut dire. Ce sera lors d'un symposium, La Suisse et ses langues, qui aura lieu fin août à Berne. Donc, on va vraiment développer un certain nombre de choses. Et pour la suite, en fait, on aimerait vraiment que les bonnes pratiques que nous expérimentons ici à Bienne puissent devenir vraiment des marqueurs très forts pour la Suisse de demain. Donc, on va vraiment essayer de décliner ça dans les années à venir.
Virginie Borel, merci. Je rappelle que vous êtes directrice du Forum du bilinguisme qui fête ses 30 ans d'activité cette année. Vous étiez en direct dans notre studio de Bienne. On vous souhaite une très belle journée.
Belle journée à vous, merci.
C'est un mouvement qui veut bousculer les codes de la politique traditionnelle. Le Parti libertarien, fondé tout récemment en Suisse, cherche à se développer, notamment à Bienne, où ses idées séduisent pour des personnes qui ne se reconnaissent dans aucun parti établi. Parmi elles, Cora Brachiti, ancien député au Grand Conseil, ancien membre de l'UDC et aujourd'hui supporter du Parti libertarien. Sur ses réseaux sociaux, il fait la promotion de la section biennoise du groupe. Il nous détaille les principes de ce mouvement.
La première, c'est le principe de non-agression. Cela veut dire concrètement que c'est une société qui n'accepte pas la coercition envers des individus, c'est-à-dire d'un groupe qui souhaite menacer ou soutirer un impôt, par exemple, par la force envers un individu, et promouvoir une société basée sur le volontariat des gens. Point numéro 2, c'est la propriété privée qui est centrale. Ce que mon corps a produit et le fruit de mon travail et m'appartient à toute personne qui souhaite le réglementer ou se le prendre. Se l'approprier est une atteinte à la propriété privée. Et finalement, la troisième, si je peux dire, c'est vraiment le principe où l'individu et sa propriété est vraiment respecté. Et c'est ce qui est aussi écrit dans la Constitution du canton de Berne, hein, l'article 26.
Fini le clivage gauche-droite à Bienne, c'est le message qu'il diffuse sur ses réseaux. Il nous explique ce que ça signifie concrètement. On retrouve Cora Brachiti.
Les libéraux traditionnels, historiques, ne voient pas l'État au centre de la vie des gens. On refuse la politique en fait. Les politiques justement, elles agissent avec la contrainte envers les individus. Donc c'est justement s'extirper de cette mentalité-là en fait.
Donc c'est un parti qui n'est pas politique et qui ne vise pas à faire de la politique non plus ?
Alors oui, quand même, parce que dans la société aujourd'hui, tous les débats se mènent autour de l'État, en fait, quand il s'agit d'éthique ou de morale. Donc on est obligé, par ce mécanisme-là, d'amener une nouvelle pensée politique, c'est-à-dire la pensée de la non-agression envers les individus. Et il faut bien rentrer dans cette plateforme-là.
Des propos recueillis par nos confrères de Canal Dru et par Diana D'Acosta. Encore peu fournis, la section biennoise du Parti libertarien n'a pas d'ambition électorale en vue des élections cantonales bernoises du mois prochain. Et en vieille ville de Bienne, l'ancienne couronne sera provisoirement utilisée par le Centre d'art Bienne. L'ancienne couronne attend de connaître son avenir à plus long terme. Plusieurs associations peuvent postuler pour avoir les locaux pour une durée de 3 ans. Le mandat démarre en septembre et donc dans l'intervalle, c'est le Centre d'art qui va pouvoir organiser des expositions. Un écran de projection permettra au public de découvrir une sélection d'œuvres vidéo. L'école de musique du Jura bernois annonce le départ de son directeur adjoint, Julien Anoni, après de nombreuses années d'engagement pour cette école. Il a été nommé responsable du département de création à la Haute École de musique de Genève. Il deviendra aussi coordinateur d'un master en création de projets musicaux. Il quittera ses fonctions à l'EMJB le 31 juillet prochain. Alléger davantage encore la charge fiscale des associations et des fondations, c'est la volonté de la Commission des finances du canton de Berne. Elle veut relever le seuil à partir duquel ces structures doivent payer des impôts sur leurs bénéfices et leurs fortunes. La Commission des finances recommande au Grand Conseil d'accepter la réforme fiscale prévue pour 2027. Une nouvelle hausse du chômage dans le canton de Berne liée aux effets saisonniers. Le taux de chômage est ainsi passé de 2,3 à 2,4%. Suivant la tendance suisse, à l'échelle nationale, le taux de chômage est passé de 3,1 à 3,2%. En cause donc les fins de contrat et les secteurs en pause hivernale. Sans cette variable saisonnière, les chiffres sont stables dans le canton. Et d'ailleurs, au 31 janvier dernier, environ 15% des 150 000 chômeurs en Suisse n'avaient pas encore reçu leur indemnité du mois de janvier. Ce matin, à Berne, le secrétariat d'État à l'économie a fait un point de situation dans la crise du nouveau système informatique qui gère le chômage et donc qui dysfonctionne. La situation s'améliore, dit le SECO, mais on est loin d'un retour à la normale qui prendra encore des semaines, voire des mois. Le chef de la division du travail au SECO, Jérôme Cossandet.
Il faut différencier deux types de chômeurs. Il y a les chômeuses et les chômeurs qui étaient déjà inscrits dans une caisse, qui touchaient déjà des prestations au mois de décembre, et ceux qui viennent de s'inscrire. Pour la première catégorie, on a vraiment fait une forte avancée. Aujourd'hui, grâce à un engagement vraiment remarquable des collaboratrices et des collaborateurs dans les caisses, en travaillant le soir, en travaillant le week-end, on est revenu à un système où on arrive à payer ces gens dans les quelques jours qui suivent la remise de leur dossier complet. J'insiste, il faut que le dossier soit complet. Pour les nouvelles demandes, c'est plus compliqué. Dans la mesure où on s'est vraiment concentré au mois de janvier au paiement des chômeuses et chômeurs qui étaient déjà existants, on a pris du retard dans l'analyse de nouveaux dossiers. Et là, maintenant, c'est notre priorité pour justement réduire ces retards et puis pouvoir contrôler est-ce que la personne a droit au chômage, quel est le montant auquel elle a droit et puis bien entendu verser ce montant. Fin du mois de janvier, on avait payé environ 85% du volume de ce qu'on aurait attendu. Donc il reste 15% sur 150 000 chômeurs, quelque chose qu'on regrette bien entendu.
Il est 12h26 sur RJB. Josette Sédou, il est l'heure d'aller lustrer nos anneaux. Et je ne parle pas de notre rédacteur en chef, Olivier Zano.
RJB Sport.
Pas de commentaires, c'est parti pour deux semaines de Jeux Olympiques en Italie alors que certaines compétitions ont d'ores et déjà débuté. Les festivités seront officiellement lancées ce soir à l'occasion de la cérémonie d'ouverture. Une cérémonie qui s'annonce aussi spectaculaire que particulière. Notre envoyé spécial au JO de Milan Cortina, Christophe Morellon.
Pour la première fois de l'histoire, la cérémonie se déroulera dans plusieurs lieux simultanément. Le gros du spectacle se déroulera au mythique stade San Siro de Milan ainsi qu'à Cortina d'Ampezzo. Pour symboliser l'harmonie entre la ville et la montagne, deux vasques olympiques seront allumés, l'un dans la cité lombarde, l'autre dans la station des Dolomites. Des animations sont également prévues à Predazzo et Livigno, deux des autres sites de ces Olympiades de la décentralisation. C'est l'Italien Marco Balige qui, comme en 2006 à Turin ou en 2016 à Rio, a été chargé de mettre en scène le spectacle. Un spectacle auquel participeront à nouveau plusieurs artistes d'exception. Après Céline Dion à Paris, une autre diva se produira ainsi ce soir à Milan, Maria Carré. Le ténor Andrea Bocelli ainsi que Laura Pausini seront également de la partie. Environ 500 musiciens et 1200 volontaires contribueront aussi à la réussite de l'événement. Comme lors de chaque cérémonie d'ouverture ou de clôture, l'un des principaux moments forts sera le défilé des athlètes. La Suisse sera emmenée, on le rappelle, par deux porte-drapeaux. Le hockeyeur Nino Niederreiter et la spécialiste de ski cross Fanny Smith.
Cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Milan Cortina débutera à 20h. Les premières médailles seront distribuées demain avec la descente de ski alpin prévue à 11h30 à Bormio. Dimanche, place à la descente féminine qui se tiendra, elle, à Cortina. Une athlète sera particulièrement scrutée dans cette course, c'est l'américaine Lindsay Vonn. À 41 ans, la championne olympique de la discipline en 2010 va s'élancer avec un genou blessé. Elle souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur depuis une semaine. Une blessure à laquelle le médecin du sport jurassien Thierry Maître a été confronté durant son passage de 15 ans à Suisse, qui on l'écoute.
En 1996, le cas était identique à Suiski à l'époque où je travaillais avec l'équipe et où Franco Cavegni s'était rupturé justement le ligament croisé antérieur. La question était venue de savoir s'il pouvait éventuellement partir au championnat du monde en Sierra Nevada. On avait confectionné avec une équipe très pointue de Berne une attelle en carbone qui justement mis en place, arrivait à protéger le genou et lui permettre de ne pas partir en avant, malgré une musculature et une préparation physique optimale. Donc, j'ai beaucoup de peine d'imaginer que Lindsay Vonn puisse faire une course à ce niveau uniquement par une stabilité musculaire de son quadriceps. Ça reste quand même, à mon avis, j'ose pas dire impossible, un défi que jusqu'à présent, je n'ai encore jamais vu.
L'INSEVON a prévu de s'élancer avec une attelle pour cette descente olympique. Ça sera dimanche à Cortina. On vous présentera l'épreuve masculine cette fois-ci dans notre journal de 18h. On mettra également le focus sur les athlètes qui portent les chances de médailles helvétiques. Merci de nous avoir suivis. Très belle journée à vous.
RJB Sport.